Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris, avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Ah, c'est Pierre Hiverna aujourd'hui, ça faisait longtemps. Bonjour Pierre Hiverna.
Bonjour Caroline.
Directeur de la plateforme des cultures du goût alimentation générale. Quelle cerise sur le gâteau aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler d'épicerie et d'épicier.
À tout à l'heure, 12h25. Matteo Caranta, qui n'était pas parti. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Et vous aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui, je me suis rendu au Théâtre des Nouveautés à Paris et c'est Pierre Arditi qui m'a reçu dans sa loge.
À tout à l'heure, 12h15 pour la madeleine. Et pour notre plat du jour, nous avons convié deux carnassiers invétérés, de fortes personnalités, faites pour tailler ensemble la bavette. Ça tombe bien puisque l'un est boucher, souvent présenté comme le boucher star qui fournit le palais de l'Élysée et les plus grands restaurants de France, et que l'autre est comédien, souvent présenté comme un amoureux des mots, à l'instar de Cyrano de Bergerac qu'il a joué un certain nombre de fois et qui fit sa renommée. Il y a quelques mois, le second a fait une lecture de texte sur la viande dans la boutique du premier. Un baisser de rideau de fer a remplacé le lever de rideau théâtral et la petite boucherie de quartier s'est transformée quelques heures durant en une salle de spectacle d'un genre inédit et parfaitement convivial. Sauf que l'événement était en petit comité pour quelques chanceux privilégiés, d'où notre envie de les réunir dans Les Bonnes Choses ce midi. Les deux ont accepté, en toute sincérité, de venir raconter cette expérience, de partager avec nous leur amitié et de nous parler, allez, de gloutonnerie.
À son souper, un glouton commande que l'on apprête pour lui, seul, un esturgeon. Sans en laisser que la tête, il soupe, il crève. On y court, on lui donne main clistère, on lui dit pour faire court qu'il mette ordre à ses affaires. « Mes amis, dit le goulu, m'y voilà tout résolu, et puisqu'il faut que je meure, sans faire trop de façon, qu'on m'apporte tout à l'heure le reste de mon poisson. »
Merci beaucoup pour cette première lecture. Jacques Weber, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Les Bonnes Choses. Bonjour Hugo Desnoyers.
Bonjour à vous.
Bienvenue à vous tous les deux. Alors, est-ce que vous aimez, en dehors de parler gloutonnerie, vous aimez la bavette ou vous préférez plutôt la tailler ensemble?
Je pense qu'on...
Hugo Desnoyers.
On aime les deux, ouais, ça c'est clair.
Ah bah moi c'est les deux. Alors en plus, c'est marrant que vous parliez de la bavette parce que c'est ça qui me faisait faire croire à tout le monde que j'étais connaisseur de viande parce que je parlais de la bavette, de l'araignée, de la poire, de l'ampe, etc. Mais la bavette, j'adore parce qu'elle est un peu mal foutue, donc les gens la prennent rarement, c'est ça?
Ouais, il y a des amateurs quand même, heureusement.
Mais elle est très, c'est magnifique. Sur, voilà, mais il faut de la bonne bavette.
Et il y en a de la bonne chez Hugo. C'est comme la parlotte, la bonne parlotte.
Bavette. Chez Hugo, il y a pas de souci.
Chez Hugo Desnoyers, donc vous êtes client du chez Hugo Desnoyers?
Totalement, coup de foudre, et comme dirait l'autre, vous croyez au coup de foudre? Non, alors vous me permettrez de rester encore un peu, c'est la fameuse histoire. Donc j'y retourne tout le temps, oui, parce que j'ai trouvé ça magnifique de bouffer, mais bouffer, j'aime bien ce mot, dans cet endroit où vous, d'abord vous mangez sur des tables qui ressemblent à vos tables.
Parce que c'est pas seulement une boucherie, en l'occurrence, vous avez deux boucheries à Paris, Hugo Desnoyers, une dans le 14e arrondissement, rue Boulard, qui est la première, qui est l'original.
Elle continue à servir sa viande et à couper sa viande pendant qu'on bouffe.
Et une autre, qui est rue du Docteur Blanche dans le 16e, où là, il y a aussi table d'hôtes.
Il y a des tables en bio, en fait.
Et alors, c'est des tables en bio. Alors ça, j'adore, très épaisse, avec des gros couteaux. Et lui, il continue à couper sa viande. On voit les quarts de bœuf devant lesquels j'ai joué, qui sont là, qui sont pendus au crochet. Et on... Alors en plus, il y a une table d'hôtes, alors c'est génial, puisqu'on fait connaissance avec des vrais mangeurs, avec des types sérieux, quoi.
Ceux qui viennent acheter votre viande.
Tout le monde parle en tout cas. Vraiment, moi, je trouve ça...
C'est un lieu de vivre, en fait, votre boucherie.
Il y a super échanges, en fait. C'est ça qui... C'est un vrai lieu de vie où à chaque fois, il y a une histoire qui se raconte, une nouvelle histoire tous les jours.
Mais entre transformer une boucherie en lieu de vie, puisqu'elle l'est au quotidien, pas nuit et jour, justement, mais toute la journée, disons, et la transformer un soir en lieu de spectacle, puisqu'on a pu admirer, écouter les lectures de Jacques Weber, il y a un pas quand même. Alors vous y êtes habitué, Jacques Weber, parce que vous avez déjà tourné dans des lieux un peu originaux avec votre Hugo au bistrot. Mais enfin, quand même, là, qu'est-ce que c'est que cette idée de faire un spectacle dans une boucherie?
Même avant, j'ai fait beaucoup de choses dans des lieux totalement incongrus, dans tout Paris, etc. Mais parce que c'est un lieu tellement, bien sûr, convivial, mais la spécificité de la boucherie, ça me fait penser que nous amenons le sang et le muscle au verbe, enfin, tout simplement, c'est nous qui irriguons le verbe et qui lui
lui donnant du muscle et du tonus, et d'être entouré de ces morceaux, c'est énorme ces morceaux de viande, de voir aussi la découpe extrêmement délicate, soit de toi, soit de tes assistants, il y a une proximité entre les deux que je trouve tout à fait stupéfiante et qui fait un choc poétique. Or, je crois que ce qui est très important, c'est quand on va dans un autre lieu, c'est justement que s'exerce forcément un autre lieu qu'un théâtre confirmé pour dire des textes, et ben il y a forcément un choc poétique, émotionnel qui se crée. Et alors, dans la boucherie de mon ami, alors là, c'est quelque chose. Alors là, ça résonne. Moi, j'ai dit du Hugo chez lui, du Hugo, Victor Hugo chez Hugo, c'était... Mais monstrueux, quoi, ça, parce que Hugo, c'est...
Voilà, ça me redonne de l'émotion encore quand on parle.
Les grands chapitres de Hugo, c'est des bœufs entiers, quoi.
C'est, ouais, c'est...
Moi, vous savez que j'ai pris connaissance de Baudelaire avec un Fordéal, c'est à l'époque où les gars étaient... pesaient 120 kilos, ils avaient pour concours de faire le tour des Halles, et ils avaient des gros tabliers pleins de sang, et le gars il me dit, dis donc mon petit truc au conservatoire, tu connais la charogne, il commence à dire du Baudelaire comme ça, en plein dans un bistrot des Halles, c'était pour moi, c'était magnifique. Quoi.
Hugo Dunoyer, vous êtes un lecteur, ou vous êtes un amateur de Jacques Weber avant
Non,
tout
je suis un amateur de Jacques Weber, ça me paraissait, alors l'idée elle est venue justement, parce qu'on avait vu Hugo Bistrot en famille avec une amie citée par Jacques,
voilà.
Et en fait, oui, Séverine a eu l'idée de faire ça dans la boutique et ça paraissait tellement évident. Et en fait, ça tombait la date de mon anniversaire et Jacques, ouais, en cadeau d'anniversaire, nous a fait ça.
Et vous l'avez refait après pour un plus après, grand comité.
Ça a été tellement une réussite. Moi, je suis très fier que la dernière, on avait quand même assis, comme au théâtre, 91 personnes dans la boutique.
Oui,
c'était quand même hallucinant.
J'étais
Jacques
même
était au milieu
des rouleaux de ficelle, du rôti, de la trancheuse à jambon.
Saucisson qui me touchait le bout du nez et tout, c'était génial.
Et alors, Jacques Weber, vous avez lu donc de Hugo, vous avez lu du Courteline,
oui,
vous avez lu du Flaubert, du Prévert et du Pierre Loti.
Ah,
Pierre
oui.
Loti, dans un extrait...
Et j'ai demandé l'autorisation, vous allez voir pourquoi. J'ai demandé à
Hugo Dunoyer,
parce que je ne savais pas comment il le prendrait. C'est un des textes les plus bouleversants qui a été écrit sur la...
Je confirme.
L'exécution d'une lettre, quoi.
Sur l'abattage
d'une... Le maître commis monta vers moi sur la passerelle. Ça se passe sur un bateau, comme très souvent chez Pierre Loti, pour me dire dans les termes consacrés, « Capitaine, on va tuer un bœuf !» Et on a beau détourner les yeux, penser à autre chose, regarder le large... On ne peut se dispenser d'entendre le coup de masse frappé entre les cornes au milieu du pauvre front attaché très bas à une boucle par terre, puis le bruit de la bête qui s'effondre sur le pont avec un cliquetis d'os. Et sitôt après, elle est soufflée, pelée, dépecée, une atroce odeur fade se dégage de son ventre ouvert. Et alentour, les planches du navire, d'habitude si propres, sont souillées de sang, de choses immondes. Donc c'était le moment de tuer le bœuf. Un cercle de matelots se forma autour de la boucle où l'on devait l'attacher pour l'exécution. Et des deux bœufs qui restaient, on alla chercher le plus infirme qui était déjà presque mourant et qui se laissa emmener sans résistance. Alors l'autre bœuf tourna lentement la tête pour le suivre de son œil mélancolique, et voyant que le conduisait vers ce même coin de malheur, comprit. Une lueur se fit dans son pauvre front déprimé de bête ruminante, et il poussa un beuglement de détresse. Oh, le cri de ce bœuf, c'est un des sons les plus lugubres qui m'ait jamais fait frémir, en même temps que c'est une des choses les plus mystérieuses que j'ai jamais entendues. Il y avait là-dedans du lourd reproche contre nous tous, les hommes, et puis une sorte de navrante résignation, je ne sais quoi de contenu, d'étouffé, comme s'il avait profondément senti combien son gémissement était inutile et son appel écouté de personne. Avec la conscience d'un universel abandon, il avait l'air de dire « Ah oui !» Voici l'heure inévitable arrivée pour celui qui était mon dernier frère, qui était venu avec moi de là-bas, de la patrie où l'on courait dans les herbages. Et mon tour sera bientôt, et pas un être au monde n'aura pitié, pas plus de moi que de lui.
Ça vous fait frémir en entendant ce texte, Hugo Desnoyers.
Et
parce que vous êtes particulièrement sensible, l'un comme l'autre d'ailleurs, à la dignité animale. Alors Jacques Weber, je vous mets un instant de côté, parce que la question peut paraître plus saugrenue, moins attendue, de la part d'un boucher. Ça veut dire quoi pour un boucher d'être sensible à la dignité animale? Vous avez d'ailleurs signé il y a quelques mois la pétition de l'association L214 contre l'élevage intensif et contre le traitement fait aux bêtes.
Bah oui, vous m'en parlez, enfin Jacques finit son texte et j'ai encore le hérissement de poils sur les bancs, on peut dire. Ouais, ça me touche particulièrement parce que il faut absolument comprendre que l'animal, c'est pour moi, ça reste un être vivant au départ, bien sûr, et ça se respecte. Et on le voit tout de suite quand je vais, moi, chez les éleveurs, on voit tout de suite un éleveur qui aime ses bêtes, qui les respecte, comme je le dis. C'est vraiment ce jour-là, la première fois que Jacques a fait ce récit dans la boutique, comme je vous l'expliquais, j'ai failli me lever et sortir de la salle. Parce que vraiment, ça me montait aux tripes, quoi.
Il y a une chose qui est complètement étonnante. Je ne répondrai pas à la place d'Hugo, mais je peux dire, et ça j'en suis sûr, à chaque fois que je fais ce spectacle, le texte où les gens, dont les gens me parlent le plus, tout de suite, c'est ce texte-là. Comme si, avec ces mots tellement justes, tellement précis, tellement nets, l'exécution remise en direct bouleversait, on avait l'image de ce que représentait cet animal qu'on bouffait bien, avec lequel on avait vraiment du plaisir. Ben, ça passe par là. Alors bien sûr, les conditions, on peut les améliorer,
après...
Certains comme toi se battent pour qu'elles soient améliorées, mais moi je me souviens que mon grand-père était, tu sais, un grand homme de viande, il avait été plus ou moins le patron de la Villette, qui était le centre de la viande en France, et je me souviens très bien qu'il avait voulu me faire plaisir, j'avais 9 ans, il m'avait fait visiter les abattoirs.
Oui.
Et pour moi, ça, c'est une image qui m'est restée, puisque j'ai vu à l'époque, on tuait au poinçon, c'est-à-dire à coup de masse ici.
Ouais. Et après, ici, c'est sur le front.
Sur le front, pardon, oui, entre les cordes. Et après, un coup de poinçon. Et ça m'avait, ce qu'il dit, la mare de sang.
Après, le texte de Pierre Lothian lui-même, récité par Jacques, c'est vrai qu'il y a une puissance qui est quand même pas commune non plus, quoi. C'est vraiment, il y a une portée, une puissance de feu, de mots, qui touche tout le monde. Ouais.
Mais vous, Hugo Desnoyers, on murmure que vos bêtes, celles que vous servez ensuite dans votre boucherie, elles ont été au préalable bercées de musique classique pour éviter le stress, qu'elles ont été nourries avec une recette faite de tourteaux de lin, de betteraves et de maïs.
Oui,
ça se ressent dans l'assiette, ça, c'est ce qui fait une bonne viande?
Non, en toute honnêteté, ça se ressent. Moi, ce que je garantis, c'est un élevage naturel. Ça se ressent, bien sûr, qu'il y a des goûts qui sont particuliers et qui sont très bons. Maintenant, comme tout animal vivant, on peut avoir une bête qui est très bien faite, mais qui peut avoir un goût un petit peu moins puissant ou moins costaud de ce qu'on puisse en attendre. Ça reste, vous prenez le meilleur taureau, la meilleure vache, vous faites les meilleurs veaux, vous n'aurez pas forcément après les meilleures bêtes au monde.
Ça se ressent aussi dans le prix de la viande, non? C'est pas donné quand même manger une viande de chez Hugo Desnoyers.
Un exemple concret, la semaine dernière, les grosses cavaleries françaises achetaient carcasses à 3,80, 3,70, 3,80 les carcasses en France. Moi je les paye 7,40, 7,60 minimum. Donc voilà, je viens de répondre à la question de façon très simple et très aisée.
Jacques Weber.
Oui, là vous étiez dans des points économiques
qui vous dépassent, mais bon.
Non, mais c'est la valeur d'exemple, moi, qui me frappe et qui me touche, c'est de ne jamais oublier à quoi correspond ce que l'on achète, ce que l'on vend, que ce soit du comestible, que ce soit autre chose. Qu'est-ce que ça représente dans la valeur du travail? Ça nous ramène à la valeur du travail, ça nous ramène à l'exemplarité.
Merci
du geste.
D'en parler.
Mais oui, non, mais c'est très important parce que on ne parle que de rendement maintenant. Enfin, les gouvernements qui soi-disant se préoccupent de nous ne parlent que de rendement, que de rentabilité, que de choses comme ça. C'est épouvantable à quel point on a totalement, la spéculation a pris le dessus sur le geste, sur l'artisanat ouvrier, l'artisanat de l'ouvrier de viande comme l'ouvrier, enfin de
bien
tout.
Sûr.
C'est aussi, mais ça va vous paraître bizarre, mais mes façons de faire des rapprochements, mais c'est le scandale des infirmières, c'est tous ces scandales-là, c'est-à-dire l'irrespect du travail. Or, le respect du travail d'un boucher, moi je trouve ça extraordinaire, passe aussi par le respect de la bête au départ. Et je crois d'ailleurs que...
J'ai l'impression que Hugo Desnoyers n'a rien à ajouter à ce que vous dites.
Non, mais une des choses les plus belles du monde, c'est qu'on doit rééduquer le monde vers la notion de respect.
C'est tellement dur.
Or, c'est
petits moyens
en ce moment, les systèmes dans lesquels nous sommes et qui nous broient sont totalement aux antipodes du respect et de la personne humaine et de la nature. On le voit. Et ça n'est pas un combat contradictoire d'être là à côté d'un boucher que j'aime, non seulement le bonhomme, mais le métier. Et en même temps, de se battre pour l'écologie, de se battre pour les problèmes de l'eau, pour voir ce que ça pose comme problème, parce qu'on sait que les vaches boivent énormément d'eau, etc. Il faut bien sûr se poser les questions.
Moi, dans le fond, ça m'arrange de tuer les bouchers. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. je me fais de mal à une mouche. J'aime bien les Belges, j'ai une passion pour les animaux, tandis que les bouchers, eux, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers, vous comprenez?
Oui, oui, je comprends.
Et puis, je leur prends leur argent, aux bouchers. Puisqu'ils tuent les animaux, et que moi je les aime, les animaux. J'ai pas droit mort, vous comprenez?
Vous connaissiez cet extrait de Notre-Dame?
C'est Jean-Louis Barrault, tout jeune, on reconnaît sa voix, un peu comme ça.
Jean-Louis Barrault.
Et puis Michel Simon et Jouvet.
Film extraordinaire dans lequel Jean-Louis Barrault joue donc un tueur de boucher. Allez, c'est l'heure de la Madeleine. Matteo Caranta, vous avez donc rencontré un autre acteur que connaît bien d'ailleurs notre invité.
Ben oui, vous partagez avec lui la scène du Tartuffe l'année dernière à la Porte Saint-Martin. C'est Pierre Arditi. Le comédien publie Le goût de ma vie aux éditions Hugo et compagnie, où il partage son grand plaisir et sa connaissance du vin. Pour sa Madeleine, c'est un autre goût de sa vie qu'a exploré Pierre Arditi, qui ne nous parle pas de vin, mais d'un plat que lui préparait sa grand-mère.
Alors ma Madeleine, c'est l'odeur de la volaille rôtie de ma grand-mère. C'était donc la mère de mon père. On y allait souvent, assez souvent. On y allait au minimum du minimum, une fois par semaine et quelques fois le week-end. J'ai quelques années, peut-être 6 ans, 6-7 ans. Elle cuit cette volaille, place Wagram, qui est l'appartement dans lequel elle vit avec mon grand-père, dans un petit four à bois, qui est grand comme un mouchoir de poche. Et cette volaille traverse la gastronomie de ma vie pour toujours. Elle nous donne, à ma sœur et à moi, quand le poulet est enfin rôti, il est à la fois très croustillant, presque cramé par moments, et on lui demande du blanc, mémé, du blanc, et alors elle découpe, elle ne découpe pas d'ailleurs, elle arrache avec ses doigts deux morceaux de blanc avec la peau croustillante qu'elle nous donne avant tout le monde. Voilà. Mon amour de la volaille, qui est éternelle, vient de cette femme et de cette façon de rôtir. C'était une rôtisseuse. Et puis elle avait cette extraordinaire vertu, mais parce qu'au fond, elle connaissait bien les enfants. Elle disait, qu'est-ce que vous voulez comme de la volaille, mais qu'est-ce que vous voulez? Du canard, du pigeon, du poulet? Alors, un coup, c'était du poulet, mais quand elle faisait du poulet, et qu'on voulait du poulet, on avait chacun un poulet, pas un morceau de poulet, un poulet. Parce qu'on aimait les cuisses, on aimait les ailes, on aimait le blanc, donc on voulait tout avoir pour nous tout seuls. Et quand idem pour le pigeon, idem pour le canard, mais la préférence, c'était tout de même le poulet. Voilà. Je suis blanc quand il est bouillant, et que, à la limite, je fais comme ma grand-mère, simplement cette fois-ci, c'est ma main, j'arrache un morceau de blanc avec la peau croustillante, non, même pour le goûter comme ça tout de suite, mais sinon, je suis cuisse, bien sûr. Ma grand-mère n'était pas intéressée par les légumes. Donc quand elle faisait des légumes, c'était de la bouillasse, c'était dégueulasse. Elle n'avait absolument pas envie de bouffer ça, c'était très mauvais. Mais quand elle faisait de la viande, ou du rôti, ou encore une fois des volailles, choses comme ça, ça c'était absolument merveilleux. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appris par la suite à manger la volaille sans aucun accompagnement de légumes. Parce que quand cette volaille correspond à mes désirs, et que je mange des légumes qui, eux, sont cuits normalement, ça me ramène à l'odeur de la petite enfance, ça ne me convient pas. Donc, quand je mange de la volaille, je n'ai pas perdu cette habitude, je peux manger un poulet à moi tout seul.
Ce qui fait quand même une belle bête, hein, Hugo Desnoyers.
Oui, ça peut être une belle bête, oui.
On parlait tout à l'heure de la bonne viande et de la façon dont on pouvait respecter l'animal de son vivant pour pouvoir manger ensuite la bonne viande. À propos du poulet et des poules et de la façon dont les poules sont élevées aujourd'hui en cage, vous avez aussi signé en 2017, Hugo Desnoyers, une tribune qui demandait l'interdiction de l'élevage en cage des poules. Ça n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose, cette
pétition.
Bien sûr
que non. Bien sûr que non, parce que le problème, comme l'expliquait tout à l'heure Jacques, c'est que dans notre domaine, on essaie, je le dis avec nos petits moyens, on essaie de faire parler de ces sujets-là, de ces problèmes-là, mais on est confronté à des lobbyistes et des puissants personnages qui font qu'à Bruxelles, on prend des décisions et on prend des lois qui sont complètement...
Vous fournissez le palais d'Élysée, le Parlement, vous pouvez pas glisser un petit mot dans les viandes que vous leur donnez?
Malheureusement, ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça.
Déjà, je me permettrai pas, ça c'est la première chose, et puis non, ça marche pas comme ça. La dernière tribune a été beaucoup plus puissante, beaucoup plus retentissante en tout cas par rapport
celle avec L214.
Bien sûr, pour l'élevage intensif. Mais ouais, malheureusement, ça suffit pas. Mais on perd la tradition, on perd notre culture, et quand on parle de respect de l'animal vivant, Moi, j'essaie d'aller plus loin, de respect de l'animal tué et en carcasse. Après, respecter l'animal, c'est de manger de la tête à la queue. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. On parlait de tarification, on parlait de prix tout à l'heure. C'est facile de vendre de la côte de bœuf et du filet de bœuf, mais pour aller faire des bourguignons aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et même quand on les brade à 3 euros le kilo, il n'y a personne qu'on achète.
De façon générale, aujourd'hui, le monde de la boucherie ne va pas très très fort ces temps-ci. Entre les études scientifiques sur les méfaits de la viande, en particulier la viande rouge, les vidéos chocs sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, le rapport ou les rapports du GIEC qui invitent à diminuer la part des aliments carnés, les attaques de véganes antispécistes, et autres, même les écrivains s'y mettent. Vincent Message en 2016 avec des fêtes des maîtres et possesseurs. Et ces jours-ci, c'est l'écrivain américain Jonathan Safran Foer qui, après Faut-il manger les animaux, bien publie sûr. L'avenir de la planète commence dans notre assiette, chez l'Olivier, et qui incite dans ce livre à manger, lui aussi, moins de viande. Est-ce que vous vous sentez un peu attaqué de toutes parts?
Absolument pas, parce que moi, ça fait 21 ans que je suis installé, ça fait 21 ans que je dis à tout le monde qu'il faut manger moins de viande et de la meilleure viande. Donc, je sais pas, je suis peut-être avant-gardiste.
Vous êtes un peu un boucher à part, peut-être.
Limite, je vais avoir une médaille. Je vais demander une médaille, tiens, c'est pas ridicule comme idée. Non, c'est tout à fait logique. Après, nous, on n'est pas, moi, je suis quelqu'un dans l'artisanat où on travaille avec des éleveurs. Moi, je suis en direct. C'est du petit travail, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'artisanat, la petite façon de faire, notre vraie culture. On n'a pas de feedlot en France, on n'a pas d'élevage intensif au niveau du bœuf. Et c'est vrai que les États-Unis, le Brésil, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ils font des choses qui polluent eux la planète, pas nous. Mes éleveurs, au contraire, j'estime qu'ils sont les premiers écologistes en France parce qu'ils respectent aussi les campagnes, ils les nettoient au quotidien, ils s'occupent de leurs bêtes, ils les soignent bien. Et tout ça, ça rentre en compte dans la vraie vie de la campagne et de la nature. Normal. On n'est pas en train de déforester l'Amazonie pour faire du soja transgénique pour nourrir ces saloperies de bestioles. Quoi. Voilà.
Jacques Weber, vous en mangez combien de fois par semaine de la viande, vous qui êtes un grand carnassier?
Je déconne pas, on est à la radio.
Attention, hein, ce que vous dites.
J'en mange beaucoup, beaucoup. Je crois presque pas tous les jours, mais pas pour un
4 fois par jour.
Non, 4 fois par jour, non. Mais j'en mange énormément. Mais je peux très bien comprendre. Vous savez, toute prise de conscience provoque des excès. Mais ces excès sont très dangereux parce qu'à force de vouloir laver plus blanc que blanc, on devient intégriste ou totalitaire. Enfin, il y a des choses qui sont très très redoutables. Et ce que tu dis, c'est vraiment important que les gens le sachent. C'est qu'il y a des éleveurs qui contribuent à un équilibre écologique, justement. Alors, moi, en plus, je veux bien plaider coupable, mais mon problème, c'est que j'appartiens aussi à une génération où on nous disait que manger de la viande était très bon pour la santé.
Tu seras fort comme un bœuf.
C'est resté là. Et tu seras fort comme un bœuf, faut prendre du sang. Bon, c'est resté dans ma tête et ça doit contribuer, consciemment ou non, au goût immodéré que j'ai pour la viande et puis le côté très curé qui nous forçait à bouffer du poisson le mercredi, ça m'a un peu éloigné du poisson.
Ouais.
Heureusement, j'aime la Bretagne, ça compense.
Et d'ailleurs, Roland Barthes en a fait une mythologie de la viande, enfin du steak en l'occurrence.
Bah oui,
vous avez un extrait de ce texte sous les yeux, vous voulez bien nous le lire, Jacques Weber?
Le beefsteak participe à la même mythologie sanguine que le vin. C'est le cœur de la viande, c'est la viande à l'état pur, et quiconque en prend s'assimile la force taurine. De toute évidence, le prestige du beefsteak tient à sa quasi-crudité. Le sang y est visible, naturel, dense, compact et sécable à la fois. On imagine bien l'ambroisie antique sous cette espèce de matière lourde qui diminue sous la dent de façon à bien faire sentir dans le même temps sa force d'origine et sa plasticité à s'épancher dans le sang même de l'homme. Le sanguin est la raison d'être du beefsteak. Les degrés de sa cuisson sont exprimés, non pas en unité calorique, mais en image de sang. Le beefsteak est saignant. Rappelons alors le flot artériel de l'animal égorgé, ou bleu, et c'est le sang lourd, le sang pléthorique des veines, qui est ici suggéré par le violine état superlatif du rouge.
Jacques Weber, vous êtes prêt à tourner dans les boucheries de France pour lire comme ça?
Il faut que le boucher soit sympa. Parce que...
À la bonne entendeur. Salut. Restez avec nous pour la chronique de Pierre Hivernin. Alors donc, Pierre Hivernin, vous allez nous parler d'épiciers et d'épiceries.
C'est ça, Caroline. Cette semaine, je voulais profiter de la sortie d'un livre intitulé « Qui a tué Félix Potin ?» pour vous parler d'épicerie et d'épicier. Alors, d'abord, comme cet ouvrage vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, sachez, jeunes auditeurs, que Félix Potin n'est pas un personnage de dessin animé que vos grands-mères kiffaient, mais tout simplement l'inventeur de l'épicerie moderne, celle qui a fini par s'écraser sur le mur géant des hypermarchés de banlieue, et que ce personnage hors norme avait compris avant tout le monde quelle était la meilleure manière de nourrir des urbains, dont le nombre n'a jamais cessé d'augmenter. Comme nous y invitent Mathieu Mercuriali et Giulio Zucchini, les auteurs de cet ouvrage, commençons par le commencement, à savoir Vasco de Gama, Marco Polo ou Christophe Colomb, dont il faut rappeler que l'objectif premier était de trouver la meilleure route pour le trafic des épices, faisant ainsi de l'épicier un trafiquant par capillarité, un type dont la réputation côté transparence des prix n'avait rien à envier au très populaire marchand de tapis. L'épicerie du 19e siècle, inventée par Félix Potin, ne propose plus seulement des épices, mais ambitionne de vendre, en plus de la trilogie de première nécessité pain, sucre et lait, de la viande, du poisson frais et des légumes en circuit court. Et oui, quand Félix ouvre en 1844 à Paris sa première épicerie, le marché de gros dringistes n'existe pas et le circuit court n'est pas une tendance, mais relève du simple bon sens. Le deuxième coup de génie du bonhomme, c'est justement son attention au prix, avec sa devise, je cite, « des affaires avant tout, le bénéfice viendra ensuite ». Cette idée du juste prix pour le consommateur valait pour lui fidélisation de la clientèle, peu encline à faire commerce avec des trafiquants. Bref, Félix Potin s'était disséminé judicieusement dans tout Paris et avait donné ses lettres de noblesse à l'épicerie de quartier, équivalente au fond pour le monde rural de l'épicerie du village. Et puis, patatras, tout ce modèle a volé en éclats avec l'arrivée des mammouths de l'alimentation, écrasant non seulement les prix, mais aussi toute forme de convivialité sur leur passage. Et pendant quelques décennies, dans de nombreuses grandes villes françaises, notre Félix a été remplacé par l'arabe du coin, dont l'un des premiers avantages était ses horaires d'ouverture extensibles et sa capacité à vous vendre d'urgence tout aussi bien un tube de dentifrice qu'un paquet de yaourts et une bouteille de vin. Pas pour rien d'ailleurs qu'au Québec on les appelle les dépanneurs. Mais ils étaient aussi nos référents, nos contacts quasi quotidiens avec le Maghreb qui ne passait pas par le filtre de l'actualité et de la presse. Et puis voilà qu'eux aussi, par un mauvais tour de l'histoire, on subit le double effet de l'envol des prix de l'immobilier et de la crise de l'hypermarché, annonçant leur remplacement par des supermarchés sans âme, succursales de ceux qui ont détruit un réseau social pas virtuel du tout. Heureusement, j'en ai trouvé encore un qui tient la boutique. Il s'appelle Mustapha El Kouchali, dit Momo. Il a 33 ans, il a un diplôme d'école de commerce en poche, a relooké savamment son arabe du coin de la rue de Lourmel à Paris et l'a baptisé Momoprix. Et Caroline, savez-vous quel était le slogan publicitaire de Félix Potin? Eh bien, c'était Félix Potin, on y revient.
Merci beaucoup, oui, oui, dit Jacques Weber. Merci beaucoup Pierre Hiverna, une chronique à réécouter sur le site des bonnes choses, sur notre site franceculture.fr. Merci beaucoup Jacques Weber et merci beaucoup Hugo Desnoyers d'être venu tous les deux dans les bonnes choses. Je renvoie peut-être les auditrices et les auditeurs à votre ouvrage sorti cette année, Jacques Weber, L'entrée des mots, qui est une déclaration d'amour à la littérature qui vous a porté toute votre vie. Et puis je renvoie, peut-être je vais vous l'offrir d'ailleurs, cette revue A4 pour vous Hugo Desnoyers, puisqu'il consacre son numéro à la viande. Question, sa dernière heure a-t-elle sonné? Non, vous répondez. Non, allez, non, on va vous l'offrir.
Merci beaucoup.
A4. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Les bonnes choses se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Leduo, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour Clément Daté vous souhaitent un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.